I have a dream.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Une Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
One nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all.
Bonsoir à tous, merci de nous retrouver pour cette autre édition de l'Amérique et vous sur VOA Afrique. Nous émettons depuis Washington DC aux États-Unis. Au micro de présentation, John Lyndon, Joselle Morissin est à la mise en onde. Installez-vous confortablement et on se retrouve juste après. Vous êtes sur VOA Afrique, vous écoutez l'Amérique et vous. Depuis le 3 avril dernier, de nombreux médias internationaux, une centaine environ, ont mis sur la place publique une affaire qui fait jaser les sphères économiques et financières de la planète. Les Panama Papers, pour ne pas les nommer, ont mis en lumière une liste de personnalités connues ou inconnues qui ont choisi de domicilier leurs fonds dans des paradis fiscaux en créant ou en faisant créer des sociétés écrans grâce à l'appui du cabinet Mossack Fonseca. Beaucoup d'Africains se retrouvent sur la liste des clients du cabinet Mossack Fonseca. John Addo Kufour, fils de l'ancien président ghanéen John Kufour, Kodjo Annan, fils de Kofi Annan, ancien secrétaire général de l'ONU, Janet Kabila, députée à l'Assemblée nationale en RDC et sœur de l'actuel président Joseph Kabila, ou encore Denis Christelle Sassou Nguesso, fils du président congolais Denis Sassou Nguesso, et Mamadi Touré, veuve de l'ancien président guinéen Lansana Conté, pour ne citer que ceux-là. Beaucoup d'autres noms se retrouvent dans les Panama Papers, comme Jérôme Cahuzac, ancien ministre du budget en France, Claude Arnault, avocat et associé de Nicolas Sarkozy dans le cabinet Claude et Sarkozy, Mohamed Bin Nayef, prince héritier et ministre de l'Intérieur de l'Arabie Saoudite, Ian Cameron, père du premier ministre David Cameron de Grande-Bretagne, Lionel Messi, Michel Platini ou encore Sid Muntur David, le premier ministre islandais qui a démissionné 48 heures après le début de la publication des documents. Mais ce qu'il faut comprendre, et comme le souligne si bien le consortium qui a travaillé sur le sujet, être inclus dans la liste ne veut pas forcément dire être coupable ou être impliqué dans une quelconque activité illégale. Bien plus, ne pas être cité ne veut pas non plus dire qu'on ne possède pas de société offshore ou des actions dans des sociétés offshore. Alors, question, fallait-il ou non publier les Panama Papers et pour quel intérêt? Nous vous donnons la parole dans l'Amérique et vous, faites-nous part de vos réactions sur Facebook ou en direct au 001-202-619-3140. Vous écoutez l'Amérique et vous sur VOA Afrique et pour nous accompagner au cours de cette émission ce soir, nous aurons donc David Dembélé. David est journaliste et vous travaillez pour les Dépêches du Mali et vous êtes membre du consortium. David, bonsoir.
Bonsoir, John.
Merci pour votre disposition à être avec nous dans cette émission. Un autre invité que nous avons, c'est Maître Alexandre Parfait Mandeng. Il est avocat d'affaires basé à Yaoundé, au Cameroun. Maître Mandeng, bonsoir.
Bonsoir, John.
Merci d'être avec nous. Nous aurons également comme invité Will Fitjibon. Lui, il est journaliste et reporter et travaille pour l'International Consortium of Investigative Journalists. C'est le consortium de journalistes qui a mis sur la place publique les Panama Papers. Nous aurons Will dans quelques secondes. Alors, on va commencer par David Dembélé. Depuis que vous avez commencé, vous, à publier les noms, quelle est la réaction que vous recevez des Africains, que ce soit les dirigeants ou tout simplement l'homme de la rue? David?
Moi, je pense, oui. Merci pour la question. Je pense que le sujet est très accrocheur. Il intéresse le lectorat malien, africain. Et moi, le sujet qui me concernait, j'ai abordé deux sujets, deux personnalités très illustres. Et la première personnalité est bien les Gabono-Maliens qui... M. Khan qui est dans les affaires. Et donc, c'est une publication qui m'a valu beaucoup de réactions sur notamment ma page Twitter, mon compte Twitter. Et des réactions également parce que l'article a été repris par beaucoup de sites africains au niveau du Gabon, au Sénégal, au Mali également.
Et que disent ces réactions?
Ces réactions... Ben, parce que le monsieur en question a trois casquettes. Enfin, il a un passeport diplomatique du Mali, du Gabon, du Sénégal. Alors, un peu, il est tiré à partie parce que les gens, les Gabonais notamment, l'accusent d'avoir sali, écorné la réputation du pays par cette affaire.
D'accord.
Et la plupart des réactions vont dans ce sens.
Tout à fait.
Et voilà, on demande à l'État d'ouvrir une enquête pour voir si d'autres personnalités gabonaises
ne sont pas impliquées dans cette affaire. D'accord. Vous restez avec nous. Will Fitjibon nous a rejoint. Will, bonsoir.
Bonsoir.
Voilà, vous travaillez pour l'International Consortium of Investigative Journalists. C'est le consortium de journalistes qui a mis sur la place publique les Panama Papers. Alors, la question que je vais vous poser, c'est comment êtes-vous arrivé à la création déjà de ce consortium et de vous engager sur ce dossier des Panama Papers?
Le consortium ICIJ existe depuis plusieurs années et Panama Papers, ce n'est pas la première collaboration mondiale que nous avons fait, bien que ce soit tout à fait la plus grande. En fait, avec Panama Papers, ce qui nous est arrivé, c'est que le journaliste allemand qui a reçu les documents tout en premier s'est dit « Mon Dieu, ces documents sont trop énormes pour un journaliste tout seul. Je vais partager tout ça avec ICIJ. ICIJ peut donc aller créer un network, un réseau de journalistes d'investigation partout dans le monde pour que tous ces sujets qui ont un grand intérêt public peuvent voir le jour. On peut très bien imaginer qu'avec un seul journaliste, voire une seule maison d'édition, un journal... Cela, tout Panama Papers n'aurait pas eu le même effet.
Oui. Alors, vous restez avec nous. Nous avons également Maître Alexandre Parfait Mandeng. Il est avocat d'affaires. Il est basé à Yaoundé, au Cameroun. Maître, quand vous avez suivi cette affaire, et étant donné que la liste a été publiée par un cabinet d'avocats quand même, qui met comme ça sur la place publique les noms de ses clients, comment vous avez réagi?
Oui, merci. Tout de suite, ça a été un peu surpris. Mais bon, par la suite, je me suis dit, si un cabinet d'avocats met sur la place publique un certain nombre de choses, ça suppose qu'il y a du vrai. Alors, je me suis dit, dans ce vrai, il faudrait regarder ce qui a été fait, ce qui est répréhensible et tout. Parce que bon, dans un premier temps, la population du Cameroun pouvait rechercher rapidement quels sont les Camerounais qui ont ces comptes dans les paradis fiscaux.
Tout à fait.
Ça a été la première réaction de tous les Camerounais.
Et justement, la question...
On essaie de regarder.
Et la question, je saute, puisque vous parlez des paradis fiscaux, qu'est-ce qui pousse les gens, tous ceux qui sont cités sur cette liste, à aller créer ou faire créer des sociétés dans les paradis fiscaux?
Oui, en fait, c'est simplement de frauder le fisc, parce qu'ils ne veulent pas payer les impôts normalement. Parce qu'en réalité, ce qu'ils font, c'est qu'ils travaillent, ils ont des business qu'ils font, mais ils ne veulent pas payer les impôts par rapport à ces business. Et le gros de leurs fonds sont gazés par les paradis fiscaux. Et ils n'ont donc pas la possibilité, le fisc n'a donc pas la possibilité de contrôler et de les faire payer ce qui va de toi au fisc.
Alors maintenant
c'est ça qu'il s'agit.
Maintenant que les listes ont été publiées, est-ce que vous vous imaginez des cas où peut-être les États peuvent maintenant poursuivre tous ceux dont les noms sont cités. Par exemple, quand on parle en Guinée de Mamadi Touré, est-ce que l'État guinéen peut décider de la poursuivre?
Moi, je pense que c'est à l'État guinéen de saisir les instances compétentes à la matière pour engager la procédure pour pouvoir rentrer dans ces fonds. Parce que ce qui est certain, lorsqu'on a travaillé dans un pays, il faut pouvoir payer les impôts. C'est la contrepartie de ce que nous faisons, nous tous.
Tout à fait.
En fait, la différence entre eux, entre ceux-là qui logent leurs fonds dans les paradis fiscaux et ceux qui volent les fonds dans les comptes de l'État, c'est que ceux-là prennent l'argent de personne, mais ils prennent l'argent de ce qui revient quand même à l'État. Vous comprenez un peu? Ils prennent pas l'argent qui sort des fonds de l'État, mais ils prennent ce qui est dû à l'État. Parce qu'en réalité, lorsqu'on a travaillé, on doit payer des impôts.
Alors, oui.
Ceux qui volent en Afrique aujourd'hui prennent dans les fonds de l'État, ne payent même pas les fonds, ne payent pas les impôts, mais détruisent complètement l'État de tout ce que l'État peut avoir. Voilà la différence entre eux et nos prévaricateurs ici.
Tout à fait. Alors, Will, je reviens vers vous. Quand vous avez publié ces listes-là, pour vous, il s'agissait de faire du sensationnel ou alors cela participait de votre devoir d'informer en tant que journaliste d'investigation?
Tout à fait. ICIJ et nos partenaires, y compris David du Mali, on ne s'intéresse pas au sensationnel. Et je pense qu'ici, c'est très important de souligner que le fait qu'un nom apparaît dans les dossiers Panama Papers ne veut rien dire quant à la légalité ou à l'illégalité.
De l'action, oui.
Voilà. Il y a beaucoup d'usages légitimes pour qu'une société et pour qu'une personne, y compris quelqu'un lié à un homme ou une femme politique, ait une présence dans l'industrie offshore. Ce qui est important pour nous, à ICIJ et nos partenaires, c'est de mettre la lumière sur les activités de ces personnes et de ces sociétés dont l'intérêt public les concerne, par exemple. C'est pour ça qu'on n'a pas tout simplement balancé tous les noms sur un site internet, mais on a fait tous un choix de se concentrer sur qui sont les hommes et les femmes politiques, qui sont les personnes qui ont une position de pouvoir, qui se trouvent dans Panama Papers, et bien sûr, en tant que tous les bons journalistes, on a fait beaucoup de recherches, on leur a posé tous des questions pour qu'ils aient une opportunité de nous répondre avant qu'on publie quoi que ce soit.
Tout à fait. Donc, vous restez avec nous, on va prendre un auditeur en ligne, Ibrahim Afane, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Oui, je vous écoute pour votre réaction sur ce sujet de ce soir.
Ok, bon, pour cette publication, moi, j'ai constaté réellement, en général, les dirigeants ou ceux qui ont une opportunité de diriger une société ou un pays ont toujours la volonté d'abord de garder leur suprématie sur le diriger. Ils préfèrent toujours mettre leur fortune ici dans les banques extérieures.
D'accord, Ibrahim, la connexion avec vous n'est pas très bonne. On va peut-être régler ça. Je reviens vers Will. Une fois que vous avez publié donc ces listes-là, est-ce que vous avez eu soit des menaces, soit des réactions de la part de tous ceux qui sont impliqués? On sait déjà qu'en Islande, par exemple, le premier ministre a démissionné. Mais il n'a pas démissionné parce que l'acte d'avoir une société aux îles Panama était un acte illégal, mais simplement parce qu'il n'avait pas déclaré. Alors, est-ce que vous avez reçu des réactions?
Je sais que beaucoup de journalistes qui travaillent sur Panama Papers ont reçu des réactions. Parfois, c'est des réactions très simples. Parfois, c'est des réactions qui nous incitent à aller encore plus loin dans nos recherches. C'est vrai que pour certains journalistes dans certains pays, les sujets de leurs enquêtes sont assez sensibles, mais je souligne encore à nouveau que nous sommes des journalistes d'investigation et pas des journalistes sensationnels. Et du coup, notre recherche, notre projet Panama Papers se fonde sur l'intérêt public.
Alors, David, au niveau de l'Afrique, est-ce que la population a conscience du fait que le fait que les dirigeants placent leurs agents dans les paradis fiscaux fait perdre à l'économie, aux économies africaines beaucoup d'argent? Est-ce que les gens ont conscience de cela au niveau de l'Afrique?
Oui, bien sûr. Moi, j'avais fait allusion un peu aux premières réactions que j'ai eues après la publication. Et beaucoup de Gabonais qui ont réagi à ce papier qui concerne Sedoukan. Bon, j'ai à l'esprit une réaction, par exemple, qui disait que on sait à présent où va l'argent du Gabon. Vous voyez, donc c'est des réactions comme ça. Donc c'est pour dire que l'Afrique et les Africains sont conscients et les sujets. Panama Papers les intéresse particulièrement parce que c'est un sujet sensible et surtout quand on se réfère un peu au temps que l'investigation a pris par rapport à ce sujet, la dimension professionnelle dont Will est en train de faire cas est très importante, a été prédominant pour nous parce que c'est pas le sensationnel qui compte, c'est vraiment la profondeur de l'information qu'on donne et l'exactitude. Donc, et c'est encore ce qui fait que le produit a plus de crédit aux yeux du lectorat africain.
Tout à fait. Maître Alexandre Parfait-Mandeng, vous disiez tout à l'heure que si les entreprises ou si les gens décident de faire créer des entreprises dans les paradis fiscaux, c'est parce qu'ils ne veulent pas payer les taxes dans leurs différents pays. Est-ce que le problème, justement, de ces taxes-là ne se pose pas dès lors? Est-ce que ça ne coûte pas trop cher dans leur pays de créer des entreprises? Pour le cas du Cameroun où vous travaillez, par exemple, si ça coûte énormément cher de lancer une entreprise et de payer beaucoup de taxes, est-ce que ce n'est pas normal pour quelqu'un qui veut faire des économies d'aller dans un paradis fiscal?
Non, John, moi je pense qu'il ne me semble pas. Je ne crois pas que payer les impôts dans un pays où on a investi, où on a une entreprise, soit aussi compliqué que ça. Moi, je pense que les impôts fixent, c'est la loi qui fixe les impôts. Et lorsqu'on s'engage à ouvrir une entreprise dans un pays, on sait exactement où on va. Alors, si l'entreprise a prévu, si la loi a prévu que l'entreprise devait payer telle somme d'argent en termes d'impôts, il faut que l'entreprise se mette dans les normes. C'est tout. Moi, il ne me semble pas que ce soit exagéré. Et puis, les impôts ne sont pas exagérés parce que lorsque vous créez une entreprise, vous savez exactement ce que vous avez devant vous.
Tout à fait.
Les lois ont tout prévu. Alors, maintenant, lorsque vous voulez vous dérober des impôts et que vous allez dans les paradis fiscaux, vous comprenez que c'est tout simplement parce que vous dites que si vous devez payer 5% et que ces 5% vous les mettez dans les paradis fiscaux, après 10 ans, vous avez récolté pratiquement 5% fois 10.
D'accord.
Ce qui fait beaucoup d'argent. C'est pour ça que les gens ne veulent pas payer les impôts et logent leur compte dans les paradis fiscaux.
D'accord. Chers invités, on se retrouve dans quelques secondes. On va prendre une petite pause.
L'Amérique et vous, en direct de Washington.
Vous êtes sur VO Afrique, vous écoutez l'Amérique et vous. Fallait-il ou non publier les Panama Papers et pour quel intérêt? C'est le débat, c'est le sujet qui fait débat aujourd'hui. On va prendre un autre auditeur, Bakary Keita. Bakary, bonsoir.
Bonsoir.
Oui, en quelques secondes, votre réaction?
Ah bon, quand même, moi, je suis ravi que les noms de ces personnes soient quand même publiés. Cela pourrait donner la latitude de ces États en question de leur poursuivre pour réparation. C'est une mauvaise volonté de leur part. Sinon, toutes ces personnes sont éminemment riches. Donc, elles doivent se conformer avec la loi. Je salue quand même le courage de ceux qui ont publié leur nom. Dans leur nom, quoi. Et cela donne quand même. Et cela les débusque.
Ok, d'accord. Will, je reviens vers vous. Lorsqu'on a placé son argent dans un paradis fiscal et que vous avez donc publié ces listes-là, la suite, c'est quoi? Les listes sont
du Panama Papers?
Tout à fait.
On va voir. Nous avons d'ores et déjà 400 journalistes qui vont continuer à publier, qui restent des partenaires d'ICIJ pour le projet. Vu la quantité des données, nous parlons de 11 millions et demi de documents. Bien évidemment, il y a beaucoup de pays où personne n'a encore vraiment commencé à creuser. Qui sont les personnes? Quelles sont les sociétés? Quels sont les documents qui concernent beaucoup de pays en Afrique de l'Ouest, par exemple? Donc, nous allons continuer à travailler sur ça. ICIJ est un tout petit bureau à Washington, D.C. et nous travaillons en partenariat avec des journalistes courageux et extraordinaires comme David pour que le travail ne reflète pas un intérêt de Washington, D.C. Moi, je ne suis pas expert de l'Afrique, mais je pense que ce qui est génial avec ICIJ, c'est qu'un expert comme David Dombele de Mali peut regarder aussi comme moi les documents de Panama Papers et tout de suite trouver, alors ça, c'est un sujet dont l'intérêt public se trouve au Mali.
Alors, ce qui est intéressant et ce sur quoi je voudrais vous interroger encore, c'est on a vu ces listes-là, mais il n'y a pas de grands noms, on va dire, qui viennent des États-Unis. Pourquoi cela? Il me semble qu'il y a 211 noms, mais pas des personnalités aussi connues.
Oui.
Vous n'avez pas encore fouillé ou vous avez mis ça de côté?
On n'a pas mis ça à côté. On a fouillé et c'est vrai qu'on n'a pas trouvé de grands noms dans l'intérêt public, des hommes politiques, des femmes politiques américains dont les données jusqu'au présent. Bien sûr, le travail va continuer. Mais il faut se rappeler, avec Panama Papers, nous parlons d'un seul cabinet d'avocats. Ça veut dire qu'il y a beaucoup, beaucoup d'autres cabinets d'avocats et d'avocats partout dans le monde qui font la même chose, qui créent ces sociétés offshore. Donc, on peut très bien imaginer que des Américains sont allés ailleurs. Il faut se rappeler aussi, d'ailleurs, que les États-Unis, c'est un pays aussi... les États-Unis, c'est un paradis fiscal.
Justement, je voulais vous...
aux États-Unis où on peut créer très facilement des sociétés anonymes. Voilà.
Dans le Delaware, par exemple?
Oui, tout à fait. Le Delaware, c'est le cas extraordinaire.
Alors, est-ce que vous pourrez peut-être aller fouiller de ce côté-là aussi, voir c'est les Américains qui ont des sociétés là-bas? C'est possible?
Ça dépend. Nous allons attendre, j'imagine, pour voir s'il y a
un cabinet d'avocats qui va vous aider,
qui vient vers nous. C'est souvent le cas d'ailleurs. Je pense qu'il y a un peu une tendance ces jours-ci pour que des personnes s'intéressent à donner des informations aux journalistes comme l'ICIJ, et on ne sait jamais ce qui va nous venir dans la boîte aux lettres d'ici le lendemain.
Alors, quel est le parallèle que vous faites entre vous et Edward Snowden?
Je ne sais pas. Disons que je pense que l'impact de tout ce que Snowden a fait avec le NSA était énorme, et nous espérons, et a changé aussi des choses, et nous espérons aussi, mais nous allons voir bien, si les conséquences, la publication de Panama Papers est aussi conséquentielle. Je pense qu'il faut se rappeler qu'on n'est même pas une semaine après la première publication.
Exactement.
Donc laissez-nous le temps à voir.
Merci. On va vous laisser le temps. On va prendre Alphonse Boisquet. Alphonse, bonsoir. En quelques secondes, votre réaction.
Bonsoir, John. Moi, je pense que c'est vraiment un manque à gagner pour nous, Africains. Hein. Nous n'appliquons pas nos obligations fiscales. Nous manquons de patriotisme, de civisme. Et vous savez que tous les Européens se développent. Il faut que nous remplissions nos obligations.
Voilà. Donc, Voilà, merci Alphonse. Donc Alphonse parle du manque de patriotisme et donc nous manquons à nos obligations. On va faire un dernier tour de table avec nos invités pour le mot de la fin. Alors Ndembélé, au Mali et en Afrique, votre dernier mot, à quoi allez-vous vous atteler dans les prochains jours?
Bien sûr que nous allons continuer le travail, comme Will l'a dit, c'est un début, hein, c'est un processus de longue haleine. Et donc, on va continuer les fouilles. Et on va, parce que une chose est pour nous de révéler ce que nous trouvons. Une autre, c'est pour les autorités de prendre leurs responsabilités. Parce que moi, je pense que la moindre des choses, quand des publications de ce genre se font, c'est d'ouvrir des enquêtes et voir éventuellement ce que l'État peut y trouver et poursuivre les traces de ces gens qui sont cités. Donc je pense que le plus gros travail, c'est aussi à ce niveau, que les États prennent entièrement leurs responsabilités pour emboîter le pas aux journalistes. Parce que le consortium a levé le lièvre, donc je pense que la dynamique peut être poursuivie.
Alors, merci Ndembélé. Maître Alexandre Parfait-Mandeng, quel conseil donneriez-vous à ceux qui veulent créer des affaires et investir?
Moi, il me semble qu'ils n'ont pas besoin de rentrer dans cette mafia où il faut éviter le fisc et tout. Parce qu'il me semble qu'il faudrait bien rester avec le fisc. Ça permet de pouvoir évoluer dans la clarté.
D'accord.
Et éviter de subir les foudres de la répression des autorités fiscales.
D'accord. David, en quelques secondes, le mot de la fin. Je voulais dire Will.
Je n'ai rien à dire je salue tous les journalistes qui ont fait partie de Panama Papers jusqu'au présent. Je suis 100% sûr que c'est la collaboration la plus importante avec les journalistes africains de l'histoire. Donc merci aux 31 journalistes venant.
Merci beaucoup, Will. Désolé, on est pris par le temps. C'est la fin de cette émission de VOA Afrique, l'Amérique et vous. Restez fidèles au programme de VOA Afrique. Donc, Joselle Morrison était à la mise en onde. John Lyndon à la présentation. Merci d'avoir suivi.